On va justement prendre la direction des États-Unis. On retrouve notre correspondant Antoine Nelard en direct de Washington. Bonsoir Antoine, avec ce revirement spectaculaire aujourd'hui des États-Unis. Ça s'est joué en Arabie Saoudite. Délégation ukrainienne et américaine qui se sont mises d'accord sur un cessez-le-feu de 30 jours et sur un retour de l'aide militaire américaine avec effet immédiat. Et ce soir, Donald Trump a pris la parole dans une séquence assez surréaliste, il faut bien le dire, aux côtés d'Elon Musk, pour proposer à Volodymyr Zelensky de revenir à Washington.
Oui, exactement. Séquence concession automobile à la Maison Blanche. Donald Trump qui voulait afficher son soutien à Elon Musk en s'affichant à côté d'une Tesla qu'il a achetée aujourd'hui. Les ventes de Tesla se sont effondrées depuis que Elon Musk a rejoint l'équipe de Donald Trump. Séquence qui était prévue avant qu'on aboutisse à cet accord à Jeddah. Mais effectivement, c'est dans ce contexte un peu étrange que Donald Trump a pris la parole cet après-midi. Alors, Donald Trump est content parce qu'en fait, son objectif principal à lui, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Il veut à tout prix que les armes se taisent en Ukraine. Il a donc accompli la moitié du chemin. Les Ukrainiens ont accepté la proposition américaine de cesser le feu. Trump espère désormais que Vladimir Poutine, à son tour, va accepter. Les deux hommes vont se parler par téléphone cette semaine. C'est ce qu'indique Donald Trump. Trump qui veut aller très vite. Il indique que le cessez-le-feu pourrait entrer en vigueur dès les prochains jours. Écoutez.
L'Ukraine a accepté le cessez-le-feu. J'espère que la Russie va faire de même. Nous allons avoir une rencontre avec eux et j'espère qu'on arrivera à sceller un accord. Mais je pense que le cessez-le-feu est très important. Si la Russie accepte, ça serait bien. Sinon, des gens vont continuer à être tués.
Est-ce que Zelensky est réinvité à la Maison Blanche ?
Bien sûr.
Voilà, Volodymyr Zelensky est à nouveau le bienvenu à la Maison-Blanche, probablement pour signer un accord sur les minerais. C'est le deuxième objectif de Donald Trump. Il veut cet accord pour récupérer l'argent que Joe Biden a versé à l'Ukraine pour soutenir l'effort de guerre. Trump indique aussi, et c'est un peu passé inaperçu, que dans un deuxième temps, il faudra régler la question des concessions territoriales. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué aujourd'hui. Mais on sait que Washington a déjà dit à Kiev qu'il faudra abandonner les territoires occupés par la Russie. En échange, Washington s'engage à fournir immédiatement, à refournir évidemment du renseignement militaire et des livraisons d'armes. Précision importante à ce sujet, il s'agit en réalité d'honorer les commandes qui ont été décidées et payées par Joe Biden. Il s'agit de tanks, de munitions, de missiles également. Il y a encore entre 3 et 4 milliards de dollars de commandes qui sont dans les tuyaux et qui seront donc livrées progressivement au cours des 6 prochains mois par les États-Unis.
Merci beaucoup Antoine Nelard pour ces précisions. Yves Tréhard, quand même, quand on fait le compte, alors on se posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on a franchi un pas important vers la paix ? Il y a quand même beaucoup de choses qui manquent. Antoine Nelard vient de les énumérer. On n'a pas parlé aujourd'hui en Arabie Saoudite des concessions territoriales, on n'a pas parlé des garanties de sécurité, et concernant l'accord sur les minerais, là aussi on a dit, voilà, c'était pas l'objet de ces discussions, il y aura un accord qui va être signé, mais c'était pas aujourd'hui l'objet précisément de ces pourparlers.
Oui, sauf que c'est la raison première pour laquelle Trump veut la paix. Si Trump veut la paix, c'est pour avoir la main sur les matières premières, les matières critiques. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est de savoir quelles concessions Trump va accepter de Poutine pour pouvoir être sûr d'avoir la main sur les matières premières ukrainiennes.
Et quelle concession, Zelensky est prêt aussi à accepter, parce qu'encore
Zelensky,
une fois,
n'a pas le choix.
On n'a pas, ben c'est ça, mais c'est qu'on n'a pas le contenu de cet accord sur les minerais. Zelensky avait mis dans la balance les garanties de sécurité américaines. Pour l'instant, on ne sait pas si ça a été retenu ou pas. Est-ce que il y a un risque aussi que Volodymyr Zelensky soit contraint de signer un accord qui lui est défavorable pour obtenir cette fameuse trêve?
Il faut comprendre qu'en contrairement de Trump et de Poutine, Zelensky, il a tout un peuple derrière lui. Il prend pas la décision comme ça tout seul. Il sait très bien que le peuple ukrainien, il n'est prêt à aucune concession. Il faut toujours rappeler que l'Ukraine, c'est un pays agressé. Il y a un agresseur il faut l'arrêter. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, à part cette grande rencontre des 30 chefs d'état-major du monde, il y avait aussi un événement assez important. C'est le deuxième forum de la sécurité de la défense de Paris. Donc, il y avait 12 2000 généraux et amiraux de tout le monde entier qui sont réunis aujourd'hui à Paris. Il y avait les tables rondes, il y avait les grands discours. Le forum était inauguré par le ministre Le Cornu. La dernière séance était faite par le ministre des Affaires étrangères. Et vous savez, il a dit, votre ministre Barrot, il a dit que cette réunion avec ces 30 chefs d'état-major, c'était pareil. On peut le comparer avec la première réunion quand l'OTAN était créée. Peut-être nous sommes maintenant en train de créer quelque chose de nouveau dans le monde. Et je voudrais rappeler aussi que l'OTAN a été créée par la France, Grande-Bretagne et Pays-Bas. Les Américaines, elles ont rejoint seulement plus tard. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que pendant toutes les réunions, on a nous parlé qu'il faut réarmer l'Europe, il faut moderniser. Et j'ai posé la question quand il y avait tous les représentants de tous les grands pays, tous les grands acteurs majeurs de la défense européenne, j'ai posé la question de la salle, dans la grande amphithéâtre Foch. J'ai dit, est-ce que l'Europe est prête à accepter une idée que l'Ukraine va gagner la guerre et la Russie va capituler? La salle applaudit à cette question. Et il y avait les députés Natalia Pouzirev. Il a commencé un discours très long, diplomatique, mais il a fini par « oui, on est prêt à accepter l'idée, on veut que l'Ukraine gagne cette guerre ». Donc il faut détourner un peu la rhétorique d'aujourd'hui. Il faut que, parce que pour les Ukrainiens, l'Ukraine pourrait continuer à exister seulement si le régime Poutine va disparaître. Et c'est seulement la victoire de l'Ukraine et la défaite de l'armée russe qui pourrait amener vers l'écroulement du régime de Poutine.
Oksana, c'est le sujet, justement, il est là. Il est évidemment là. Mais on sait très bien que ce n'est pas les Européens, aussi nombreux qu'ils soient, à se réunir à Paris, qui vont faire plier Poutine.
Il ne faut pas le faire plier, il faut gagner la guerre.
Le sujet pour
c'est
les
pas la même chose.
Le sujet, à mon avis, pour les Européens, ce n'est pas tant de faire plier Poutine que de s'organiser pour se dire, si jamais les Américains un jour nous lâchent, ce qui ne saurait être le cas pour le moment, parce qu'il n'y a pas assez, on n'en est pas là, on n'en est pas arrivé là, comme l'a dit très bien le général Desportes, comment on s'organise? Mais après, je dirais que Poutine, le fait qu'il quitte le pouvoir, le fait qu'il soit battu, le fait qu'il fasse un cessez-le-feu avec Zelensky, il n'y a qu'une seule puissance qui peut à ce moment-là agir et qui peut essayer d'aller dans ce sens-là, c'est les États-Unis
je vous exposais ce que les Ukrainiens sont, mais je voudrais vous rappeler que général Zaloujny, il a dit que pour gagner la guerre, il nous faut l'armement de victoire, c'est les avions. Si on aura les 400 avions, nous pouvons finir cette guerre
sans faire plier Vladimir Poutine. Mais néanmoins, est-ce que ça peut, cette réunion avec les chefs d'état-major aujourd'hui à Paris, et ce qui est en train de se passer, cette espèce de réveil, de sursaut européen, est-ce que ça peut faire infléchir aussi Donald Trump, parce qu'il a regardé aussi avec attention là, ce qu'il s'est joué à Paris aujourd'hui?
C'est à la fois un symbole de cette volonté-là qu'ont les Européens avec l'autre des Occidentaux, et pour Trump, c'est aussi, ça conforte son analyse. C'est-à-dire que l'Amérique ne peut plus être le seul parrain de la planète. Il faut que les Européens se prennent en charge. Mais à propos des Ukrainiens, il faut rappeler deux choses. La première, c'est qu'ils n'ont pas perdu cette enclave de Koursk qui est en Russie. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des batailles.
Ils sont toujours en Russie.
Ils sont en Russie. Et ça, c'est un élément de négociation. C'est-à-dire, dans la vraie négociation, Zelensky pourrait dire, moi, je rends la région de Koursk à la Russie en échange d'autres choses, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? C'est vrai qu'on parle beaucoup, et à juste titre, des bombardements russes sur l'Ukraine, qui sont considérables. Mais la nuit dernière, le fait nouveau, le fait majeur, c'est que l'Ukraine a envoyé 240 drones en Russie, qui ont frappé un certain nombre de cibles. 240 drones, dont, disent les Russes, 90 ont été interceptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ukraine continue à être offensive et à infliger des coups à la Russie, même si elle n'est pas en bonne situation sur le front. Et quand Zelensky propose aujourd'hui donc une trêve dans les airs, c'est un signal adressé à Poutine. C'est-à-dire, si vous faites la trêve dans les airs, nous n'allons plus vous attaquer pendant une période de 30 jours. Vous non plus, mais nous non plus. Donc, en fois que Zelensky et son armée, aujourd'hui, essayent d'établir une sorte de marchandage militaire, on est en capacité de vous infliger des coups, malgré 3 ans et demi de guerre.
Et si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on peut s'attendre à une espèce d'escalade aussi militaire là, dans les prochains jours pour faire céder Poutine en disant « regardez de quoi on est capable ».
Qui cherchent absolument à reprendre la région de Kursk.
Oui. L'offensive des drones ukrainiens, c'était un acte politique, évidemment. Ce n'était pas un acte militaire. C'était montrer qu'on pesait et que Poutine avait un intérêt personnel à lui-même aller vers le feu, bien sûr.
Une trêve dans les airs. La formule est importante. Mais alors là, silence dans les airs, silence sur la mer.
Mais justement, on parle de quoi quand on parle de trêve? Parce que la proposition qui avait été mise sur la table par Volodymyr Zelensky, c'était la proposition franco-britannique. Enfin, on va dire française, parce qu'il y avait une petite dissonance avec les Britanniques. Mais c'était une trêve dans les airs et en mer. Là, ce cessez-le-feu repris par les Américains, parce qu'ils présentent cela comme une proposition américaine, c'est un cessez-le-feu complet, y compris sur le sol?
Non, c'est toujours dans les airs et sur
le même.
Le sol n'est pas touché. Mais ce que disent les militaires, c'est que si on impose un cessez-le-feu dans les airs, s'il n'y a plus de drones, plus de missiles, s'il n'y a plus non plus de guerre maritime, alors forcément, ça aura un impact au sol.
Non, mais les Américaines, elles ont dit. Parce que ça, c'était la proposition.
C'était la proposition que vous voulez dire,
des Ukrainiens dans cette négociation. Et les Américaines disent et pourquoi pas, essayons la ligne du front.
Exact.
Et ils ont dit, et Zelensky, il a dit, si les Russes sont OK, on est OK.
Mais alors attendez, parce que plus de combats au sol, est-ce que ça veut dire retrait des troupes russes au sol pendant cette trêve?
Non, chacun reste où il est. Chacun reste où il est.
C'est la situation Corée du Nord, Corée du Sud. Oui. Voilà. Une ligne de démarcation.
Donc tout reste figé.
Le combat reste figé pendant 30 jours. Et après, on verra.
Et la première étape, comme en 2015, consisterait dans un premier temps à écarter l'artillerie lourde en fait, du front.
Donc il y aura un retrait de l'artillerie lourde.
On arrête de tirer.
C'est ce qui va être visé, a priori, dans un premier temps. Bon. Enfin, si on arrive.
Mais on a déjà vécu 5000 fois avec les Russes. Ça ne marchait jamais.
C'est arrivé quelques fois depuis 2014.
Voilà, si tant est encore une fois que la Russie accepte ce cessez-le-feu et si elle acceptait qu'elle respecte ce cessez-le-feu.
C'est difficile de contrôler, surtout. C'est pour ça Macron l'a dit. C'est la ligne entre Paris et Budapest. C'est très difficile de contrôler. 1200 km de front, c'est incontrôlable.